Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 20 Mordad, 1401 du calendrier iranien, 11 août 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Téhéran appelle les États-Unis a accepté les demandes légitimes de la République islamique d'Iran. Téhéran déclare avoir répondu à la proposition de l'Union européenne dans le cadre du dossier nucléaire. L'Iran et le sultanat d'Oman plaident pour le développement de leur coopération dans tous les domaines. Bombardement israélien à Gaza. Une petite fille palestinienne, succombée à ses blessures, tombe en martyr. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran s'est montré optimiste quant à la reprise des discussions sur le dossier nucléaire iranien après l'examen d'un projet de compromis soumis la semaine dernière par l'Union européenne et destiné à débloquer la situation au point mort depuis le mois de mars. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran espérait que la partie américaine adopterait une approche réaliste et pragmatique envers les demandes légitimes de l'Iran pour ouvrir la voie à un accord final sur la relance du plan global d'action conjoint. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et du Sultanat d'Oman ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Lors d'un entretien téléphonique mercredi, les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et du Sultanat d'Oman, Hossein Amir Abdollahian et Badr al-Boussaidi, ont discuté des derniers développements des pourparlers de Vienne pour la levée des sanctions. Amir Abdollahian a transmis les salutations du président iranien Ebrahim Raisi au sultan d'Oman et a apprécié les efforts d'Oman dans les négociations pour lever les sanctions contre Téhéran. Badr al-Boussaidi a pour sa part souligné le rôle constructif de l'Iran dans les pourparlers de Vienne et a déclaré que Oman estime le succès des négociations dans l'intérêt de toutes les parties. L'Iran a rejeté jeudi les accusations de la justice américaine contre un membre du corps des gardiens de la révolution islamique pour avoir fomenté un complot visant à assassiner l'ancien conseiller à la sécurité nationale américaine, John Bolton. Téhéran a qualifié ces accusations de ridicules. Les États-Unis ont inculpé mercredi un ressortissant iranien, membre du corps des gardiens de la révolution islamique, pour avoir fomenté un complot afin d'assassiner l'ancien conseiller à la sécurité nationale américaine de l'administration Trump, John Bolton. Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré que de telles accusations ridicules étaient purement politiques. L'intention des États-Unis est de dissimuler leurs nombreux crimes terroristes et ceux d'Israël et des groupes terroristes affiliés, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il a également émis un avertissement concernant toute mesure prise contre des ressortissants iraniens sur la base d'accusations non fondées. Téhéran dit se réserver le droit de prendre des mesures nécessaires dans le cadre du droit international pour défendre les droits du gouvernement et des citoyens iraniens. Une petite fille palestinienne succombe aux blessures qu'elle a subies lors des récentes frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Layan Al-Shaer, âgée de 10 ans, avait été grièvement blessée après que des missiles israéliens ont touché un quartier de la ville de Beit Hanoun vendredi dernier. Sa mort porte à 48 le nombre des civils tués pendant les 3 jours des frappes meurtrières d'Israël sur le territoire sous blocus depuis 2017. 4 femmes et 17 enfants figurent parmi les morts, tandis que quelques 360 personnes ont été blessées lors des raids sanglants. En réponse aux attaques d'Israël, le mouvement djihad islamique de la Palestine a tiré des centaines de roquettes sur des villes israéliennes, dont Tel Aviv, Sderot, et Ashkelon. Une trêve négociée par l'Égypte a mis fin à la dernière série des frappes israéliennes sur Gaza. La région orientale du Donbass en Ukraine reste au centre de la guerre, les deux parties se battant désormais pour une ville stratégique, Pisky. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra jeudi une réunion d'urgence pour discuter de la situation de la centrale nucléaire de cette ville, alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de l'avoir bombardée. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation extrêmement grave. Dans le Donbass, les combats se rapprochent de Donetsk. De violents combats font rage autour de la ville. Des groupes pro-russes à Donetsk affirment que Pisky est désormais sous le contrôle des troupes russes et des forces séparatistes. Ils disent cependant qu'il existe des poches de résistance dans la ville. Les responsables ukrainiens ont nié cette nouvelle, affirmant que leurs forces continuaient de riposter. Et enfin, Taïwan rejette le modèle « un pays, deux systèmes » récemment proposé par Pékin dans un livre blanc au milieu des tensions croissantes avec l'île autonome. La porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères a accusé Pékin d'avoir utilisé la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taipei comme prétexte pour intimider les habitants de l'île. Les deux parties sont sur la voie de la collision depuis la visite controversée de Nancy Pelosi, chacune organisant des exercices militaires dans une démonstration de force. le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a appelé les États-Unis à préparer le terrain pour le texte final d'un accord lors des pourparlers de Vienne en acceptant les exigences légitimes de la République islamique d'Iran. Nous avons transmis notre message à l'Amérique par l'intermédiaire des Européens. Nous espérons que la partie américaine, avec une vision réaliste et pragmatique, et avec l'acceptation des demandes légitimes de la République islamique d'Iran, jettera les bases d'un accord sur le texte final, a-t-il déclaré mercredi soir au téléphone à son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu. Les négociations entre l'Iran et les Européens, plus la Russie et la Chine, pour relancer l'accord nucléaire de 2015, en supprimant les sanctions américaines contre Téhéran, sont en cours depuis avril 2021. Alors que l'administration Biden a affirmé être prête à revenir au respect de l'accord que son prédécesseur a abandonné en 2018, elle n'a pris aucune mesure pratique pour préparer les torts passés de Washington. Lundi, un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les informations des médias américains selon lesquelles un texte visant à rétablir l'accord avec l'Iran avait été rédigé et que les négociations à Vienne étaient terminées. Les responsables iraniens ont déclaré qu'ils avaient déjà transmis une première réponse au projet et qu'ils reviendraient avec des points de vue supplémentaires ultérieurement. Le site Nour News, qui est affilié au Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, a indiqué que la République islamique d'Iran a clairement annoncé dès le début qu'elle ne signerait pas de texte tant qu'elle ne sera pas sûre d'un accord sur toutes les questions discutées qui sécurisera pleinement les intérêts de la nation iranienne. Le ministre turc des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que les négociations en cours aboutiront bientôt afin de garantir les droits de la nation iranienne et les intérêts communs de toutes les parties, a rapporté mercredi l'agence de presse iranienne Tasnim. Lors d'un appel téléphonique lundi, Amir Abdollahian a déclaré au chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, que l'Iran s'attend à ce que toutes les parties fassent preuve de détermination et de sérieux pour parvenir au texte final de l'accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères, lors de ses entretiens avec Mevlut Çavuşoğlu, a également fermement condamné l'attaque brutale du régime sioniste contre Gaza, l'assassinat de commandants de la résistance et le martyr d'un groupe de Palestiniens sans défense, en particulier le meurtre d'enfants innocents. Mevlut Çavuşoğlu a également souligné le caractère injustifiable et inhumain du meurtre de civils, en particulier des enfants, par Israël. Les ministres iraniens et turcs des Affaires étrangères ont évoqué la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran le mois dernier, à la tête d'une haute délégation, la qualifiant de très positive. Ils ont également échangé des vues sur la manière de donner suite aux accords et aux réalisations de la 7e réunion du Conseil suprême de coopération Iran-Turquie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a cité l'ordre du président Ebrahim Raisi de poursuivre avec diligence les accords conclus lors de la visite du président Erdogan à Téhéran, affirmant qu'il est nécessaire d'accroître la communication entre les ministères et les institutions des deux pays afin d'atteindre les objectifs prévus conformément aux accords conclus entre les deux gouvernements.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors le djihad islamique et le Hamas se partagent la tâche pour transformer Israël en un enfer intenable pour les Israéliens. Justement, le Hamas et le Hezbollah libanais qui ont marqué au cours de ces deux dernières années des avancées militaires considérables ont donc décidé de mettre en application leurs menaces contre Israël. Et Israël n'a d'autre choix que de se soumettre à la raison. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les condamnations affluent à la suite des récentes frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Réagissant au crime, le secrétaire général du Hezbollah libanais a condamné l'agression israélienne affirmant que le régime de Tel Aviv est fondé sur le crime et le massacre. Sayed Hassan Nasrallah a salué les groupes de résistance palestinienne pour avoir su faire face aux attaques, notant qu'ils ont prouvé qu'Israël est fragile et qu'il peut être facilement vaincu et humilié. Il a qualifié l'attaque du régime sioniste contre Gaza d'erreur de calcul d'autorité israélienne et a poursuivi. Le régime sioniste a fait une erreur dans ses évaluations et ne pensait pas que le djihad islamique répondrait à leur acte de terreur. La résistance a sans aucun doute le dessus. La rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a également fustigé la dernière série d'agressions israéliennes contre la Palestine. Les États-Unis, cependant, ont pleinement soutenu Israël, justifiant sans surprise les attaques comme un moyen de légitime défense. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que le régime d'apartheid israélien devait assumer la responsabilité des conséquences de l'escalade de la crise à Gaza et dans les territoires palestiniens. Dans des lettres adressées au ministre des Affaires étrangères des pays musulmans, au secrétaire général de l'ONU, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, au président du mouvement des non-alignés MNA et au secrétaire général de l'Union africaine, Amir Abdollahian a exprimé la profonde préoccupation de l'Iran concernant les attaques brutales du régime israélien d'apartheid contre la bande de Gaza, le meurtre de civils, y compris d'innocents enfants, tout en condamnant les crimes et l'agression du régime israélien contre le peuple palestinien, malgré l'inaction des organisations internationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que le régime occupant de Tel Aviv est entièrement responsable des conséquences de l'intensification de la crise à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par André Chamy, juriste international depuis Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à Monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Suède. Monsieur Ahmad Rami, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Ahmad Rami. Vous êtes avec nous depuis Stockholm. Alors, vous êtes connu pour toujours avoir défendu la cause palestinienne dans votre vie, également dans votre radio en Suède. Alors, pour ma première question, les crimes commis par le régime sioniste n'en finissent pas. Mais cette fois, la donne est différente car le Hamas, qui a marqué des avancées militaires considérables, et depuis qu'il a décidé de mettre en application ses menaces contre Israël, cela a beaucoup changé, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, c'est la puissance, la force d'Israël vient de nos faiblesses. Et plus on devient fort, plus la force de l'occupant, la force injuste de l'occupant sioniste devient faible. Et maintenant, la résistance commence à devenir plus forte grâce justement au soutien de la République islamique d'Iran qui est aujourd'hui à la tête dans le monde entier des pays qui soutient la justice, qui est en fait une cause internationale et mondiale. Pas seulement des musulmans, mais des chrétiens et de toutes les religions dans le monde, parce que la question palestinienne est la question centrale de toute l'humanité. Et en réalité, l'Occident aussi, la libération de la Palestine passera certainement par la libération de l'Occident et de tout le monde entier de la domination sioniste. Parce que le manque de soutien du monde entier à la question palestinienne, qui est une question mondiale, une question de la justice mondiale, c'est ce qui fait, en fait, maintenant, ce qui permet à la domination et à l'occupation sioniste d'exercer des massacres et des crimes contre l'humanité en Palestine.
Oui, merci. André Chami, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes juriste international, donc vous êtes bien placé pour répondre à cette question que depuis des décennies, le régime sioniste commet des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza et partout dans la Palestine occupée. Et quand il s'agit de la défense de son territoire, il semble que c'est un crime pour ceux qui soutiennent le régime sioniste. Mais alors que le régime sioniste, quand ils attaquent et tuent des innocents et des civils, c'est la défense de soi. Que pensez-vous?
Le principe de la légitime défense est un principe international qui est bien connu et est consacré par tous les traités internationaux et notamment par la charte de l'ONU. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si le peuple palestinien est en état de légitime défense. La question est de savoir si le monde entier doit assumer ses responsabilités et rétablir une paix durable, juste et qui rend au peuple palestinien ses droits sur son territoire et surtout lui permet d'avoir ce qu'on appelle de récupérer son droit à l'autodétermination, c'est-à-dire ce qu'ils veulent eux en tant que Palestiniens sur leur terre, avec leur population et bien entendu avec le monde qui les entoure. Cette équation n'a jamais été traitée en réalité. Il y a eu des décisions au fur et à mesure par l'Assemblée générale de l'ONU. Les décisions du Conseil de sécurité ont toujours été bloquées par les veto américains, ce qui explique actuellement qu'il n'y a pas de décision internationale valable qui ait été prise à l'encontre de l'État sioniste ou de l'entité sioniste afin de faire cesser cette situation. Et j'ai presque envie de dire, c'est tant mieux pour le peuple palestinien. Dans quel sens? Parce qu'en réalité, pendant des décennies, le monde entier parlait de la solution de deux États. En disant, l'ONU a reconnu l'existence de deux États, sauf que l'ONU a été particulièrement inspirée en disant l'État palestinien serait à tel endroit, mais sans fixer des limites, et l'État sioniste, en tout cas Israël, serait à tel endroit sans fixer ses limites. Et aujourd'hui, bien entendu, si l'on regarde la carte, le rêve, si j'ose dire, palestinien, se trouve totalement anéanti. Par conséquent, les Palestiniens n'ont d'autre choix. Aujourd'hui, ceux qui parlent parmi les Palestiniens de paix juste et d'avenir et de paix avec leurs voisins israéliens, aujourd'hui, ils en ont pour leur argent parce qu'ils ont découvert que toute cette salade racontée sur la paix et sur l'existence de deux États ou la coexistence de deux États n'était qu'une salade, pour ne pas dire un mensonge grossier et grotesque animé par les Israéliens et commercialisé par les Américains. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux États. La question est de savoir donc comment rétablir les droits du peuple palestinien. Et ça va être automatiquement au détriment de ceux qui sont venus s'installer sur leur territoire. C'est une question d'équation inévitable, pour ne pas dire impossible à éviter. Les Palestiniens, donc, ils ont compris, dans leur majorité aujourd'hui, malgré les tentatives de Arafat par le passé et l'insistance, si j'ose dire, de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne, aujourd'hui les Palestiniens, dans leur majorité, ont compris qu'il n'y a qu'une seule solution pour retrouver leurs droits, leur dignité, leur honneur et leur territoire, c'est la lutte armée. dont ils avaient été privés pendant de longues années à cause des négociations avec Arafat. Aujourd'hui, ces négociations n'existent plus, la solution pacifique n'existe plus. Et la lutte armée a commencé. Et évidemment, il n'y avait qu'un seul pays qui avait à l'époque soutenu la lutte armée pour permettre au peuple palestinien de retrouver et de recouvrer ses droits, c'est la République islamique. C'est incontestable. Dès l'annonce de l'existence de la République islamique d'Iran, il y a eu une annonce en parallèle, c'est la suppression de l'ambassade d'Israël à Téhéran et le remplacement de cette ambassade par une ambassade destinée ou dédiée à la Palestine et a été confiée, si je veux dire, à Arafat à l'époque.
Tout à fait.
Mais Arafat n'avait pas la reconnaissance réelle pour l'Iran et c'est la raison pour laquelle il s'est éparpillé, il est parti dans tous les sens. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est la lutte armée et cette lutte armée a commencé et se poursuivra jusqu'à la libération des territoires palestiniens et son retour au peuple palestinien, lequel décidera de son sort et de son avenir à travers ses propres institutions et à travers ses propres responsables politiques et à travers ses propres institutions politiques, en l'occurrence les partis, les mouvements, dépendants du peuple palestinien et non pas de l'ONU et des États-Unis.
Tout à fait. Justement, vous avez évoqué la confrontation. J'aimerais beaucoup connaître l'avis de M. Ahmad Rami qui est avec nous depuis Stockholm. Alors, M. Ahmad Rami, dans vos interviews, vous avez toujours évoqué le lobby sioniste qui empêchait l'avancée des choses, l'avancée de la paix au cours de ces 5-6 décennies, dernières décennies. Alors que maintenant, le djihad islamique et le Hamas ont décidé de passer à l'acte seuls, donc, et que parce qu'à maintes reprises, ils ont dit que le régime sioniste ne connaît que le langage de la force. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. André Chami quand il parle de la confrontation qui est inévitable ?
Je suis absolument, totalement d'accord avec lui, parce que Israël, entre guillemets, n'est qu'une occupation. Ceux aujourd'hui qui s'appellent Israël sont tous venus de l'étranger, sont pas de la Palestine. Donc il n'y a pas une occupation dans le monde qui est une occupation claire et nette que cette occupation. C'est un problème donc, chaque problème a une solution. Chaque occupation provoque une résistance. C'est automatique. Quand il y a une occupation, il y a une résistance. Parce que les occupés n'ont d'autre choix que la résistance. C'est leur existence. Hein. Et bien sûr, l'occupant, comme dans tout le monde entier, dans tous les temps, et dans toutes les occupations, ils agissent, c'est leur, disons, de leur... leur massacre, leur répression font partie de cette occupation. Donc en réalité, il n'y aura d'autre solution que la fin d'Israël. Il n'y aura pas deux États parce que c'est Israël, la différence entre cette occupation et les autres occupations dans le monde, c'est que les sionistes ont transformé cette occupation en idéologie, en une religion, mais en fait c'est une occupation classique. Le peuple palestinien, il n'a pas d'autre. Les Palestiniens ne sont pas venus d'autres pays, ils sont de la Palestine. Et alors, ils n'ont pas d'autre par où aller. Donc, les Palestiniens n'ont d'autre choix que de résister jusqu'à à la solution juste et stable, c'est-à-dire en fait il n'y aura pas au Moyen-Orient en général de paix qu'une paix de stabilité que sous une solution juste qui est la fin de l'occupation. Ben, chaque problème a une solution.
Absolument.
Et la solution de ce problème c'est la fin de l'occupation.
Absolument. Maître Chami, donc vous dites que la confrontation est inévitable et on pense que la forme de cette confrontation a beaucoup changé depuis ces dernières années car maintenant le Hamas et le djihad islamique disposent bien sûr des missiles et des drones sophistiqués qui permettent vraiment de menacer directement et transformer Israël en un enfer. Que pensez-vous ?
Vous savez, les Israéliens gagnaient, si j'ose dire, les guerres contre le monde arabe, pour parler un peu de manière raccourcie. C'est parce qu'ils menaient une guerre classique. Ils disposent effectivement de l'armée la plus puissante, dans le sens où cette armée est particulièrement dotée des meilleurs matériels militaires, avec un soutien sans faille de la part des États-Unis, ce qui leur permettait systématiquement de reprendre le dessus et effectivement d'infliger des défaites aux pays de la région. Il y a une équation qui a été établie par le Hezbollah pour désigner le responsable direct de la disparition de ce qu'on appelle l'armée invincible. C'était grâce aux opérations d'Hezbollah et à la guerre qui a été menée par Hezbollah à partir de 1982-1983 jusqu'à l'année 2000, l'année où les Israéliens ont dû quitter le Liban, sans pouvoir négocier quoi que ce soit, sans pouvoir assurer leur arrière, sans pouvoir assurer même la protection de leurs propres collaborateurs. C'était un départ d'échec et c'était un départ surtout de lâcheté, parce qu'ils n'avaient d'autre choix que de fuir. Et ils ont fui pendant la nuit pour éviter justement de continuer de subir les attaques. Ce premier échec militaire a donné le la à la nature de la guerre qui allait avoir lieu. Et cette guerre s'est poursuivi grâce à ces principes-là, c'est-à-dire les guerres asymétriques. Et le Hezbollah l'a démontré en 2006 et a donné l'exemple à l'ensemble des mouvements de résistance palestiniens, c'est-à-dire pendant ce temps-là, les Palestiniens ont dû se doter des moyens nécessaires pour pouvoir mener cette guerre asymétrique. Et cette guerre asymétrique se poursuit et en 2008, il y a eu les premières confrontations qui ont démontré que Gaza peut résister et peut même bouter les Israéliens en dehors de ses limites territoriales. Et depuis, les Israéliens se trouvent en situation d'échec parce qu'ils n'ont pas de solution militaire au problème, entre guillemets, de Gaza. Et le pire, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus le problème de Gaza. Aujourd'hui, c'est le problème de Gaza. C'est le problème des territoires qu'on appelle de 48, mais également de la Cisjordanie, parce que la Cisjordanie, qui était en quelque sorte le fief de l'autorité palestinienne, mais compte tenu de l'échec de l'autorité palestinienne face aux Israéliens, parce que la négociation d'une paix de lâche n'a pas marché et n'a pas été supportée par les Palestiniens, parce qu'ils ont compris que pour avoir des droits, insignifiants, il fallait qu'ils collaborent avec les Israéliens, il fallait qu'ils deviennent en quelque sorte les subsidiaires des Israéliens, ce que les Palestiniens ne voulaient pas. Et aujourd'hui, l'autorité palestinienne se trouve en situation d'isolement, tant de sa population que des Israéliens, parce que c'est une autorité qui n'a plus de pouvoir. Et évidemment, tout cela a donné une perspective au peuple palestinien dans toutes ses dimensions et surtout dans toutes ses présences territoriales. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vision, et il y a une perspective, il y a une volonté, et surtout qu'il y a une hargne au sein des combattants palestiniens, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables, ils savent qu'ils peuvent gagner cette guerre, et ils y arriveront. Et évidemment, cette guerre, soit elle sera circonscrite, si j'ose dire, à l'intérieur du territoire palestinien, soit elle aura une autre forme, ce que je pense, moi, personnellement, c'est-à-dire c'est une guerre ou une grande bataille qui va avoir lieu entre l'axe de la résistance et cette entité palestinienne et qui aboutira à la disparition de l'idéologie sioniste, parce que Israël n'existerait que s'il y a une idéologie sioniste, et la disparition de l'idéologie sioniste parce que ses promoteurs auraient quitté ce territoire, et c'est ce qui permet en quelque sorte cette espèce de basculement et ce qu'a appelé Saïd Hassan Nasrallah le départ avec les valises de ces Israéliens, entre guillemets, qui sont venus s'installer dans ces territoires-là. Aujourd'hui, ils devraient commencer à préparer leurs valises, parce que c'est la préparation de ces valises-là qui est en perspective pour eux, ils n'en ont pas d'autres, parce que cette bataille va être menée et cette bataille sera gagnée par l'axe de la résistance. C'est incontestable, je dirais, c'est une loi de la nature.
Oui. Et Ahmad Rami, comme a dit Maître Chami, la vie s'est arrêté en Israël, les bus et les trains ne circulent plus. Est-ce que vraiment Il est temps, donc, avec cette grande force du Hezbollah et du djihad islamique, que l'Israël revient à la raison. Est-ce qu'il ne serait pas temps?
Oui, Monsieur André Chami l'a dit, ce n'est pas seulement une guerre en Palestine, c'est en réalité une guerre mondiale, parce que le sionisme est une idéologie. La définition de l'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est une idéologie, c'est une image de la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est comme un tableau, quoi. C'est une image de la réalité, une image sioniste que les sionistes ont de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Eux-mêmes, ils le savent, parce que la majorité des sionistes sont à l'étranger de cette occupation. Ils sont aux États-Unis, le lobby AIPAC, en France, le lobby aussi sioniste en France et dans tous les pays. C'est-à-dire que les sionistes, en fait, s'ils occupent la Palestine militairement, ils occupent tous les pays, ou bien ils essayent d'occuper tous les pays politiquement, culturellement, économiquement.
Monsieur
donc,
Ahmad Rami,
ils ne sont pas seulement en Palestine, mais dans le monde entier, quoi.
Monsieur Ahmad Rami, on a une forte impression de croire que le lobby sioniste n'a plus le panache et la force qu'avant, avec justement l'avancée militaire du Hamas.
Oui, parce qu'en fait, le Hamas et les Palestiniens, en réalité, luttent aujourd'hui au nom de toute l'humanité. Parce que la résistance aussi augmente aux États-Unis, le peuple américain, en France, hein, en Allemagne, en Russie. Parce que cette occupation a ses racines et ses soutiens dans l'idéologie sioniste qui existe, qui a toujours existé dans tous les temps, et qui est même à l'extérieur de la Palestine. Par exemple, maintenant, ils occupent les États-Unis, ils occupent la France, et la libération de la Palestine, comme je l'ai toujours dit, viendra en réalité par la libération des États-Unis, de la France, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Tous les pays, les grands pays aujourd'hui, sont occupés, même les pays arabes, la majorité des pays arabes, ce qu'on appelle les pays arabes, les musulmans, sont aujourd'hui aussi occupés par le lobby sioniste. Donc c'est une guerre en réalité qui va se dérouler dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne le dit pas ouvertement, mais dans la réalité, on le voit. On le voit qu'il y a une résistance.
Absolument.
Dans tous les pays.
Tout à fait, tout à fait. Maître Chami, en une minute pour terminer, comment vous prévoyez l'avenir de cette confrontation, peut-être même dans les semaines à venir?
Aujourd'hui, il est incontestable que l'antisioniste se trouve dans l'impasse parce qu'elle cherche par tous les moyens à sortir de cette impasse-là. C'est la raison pour laquelle les derniers cadeaux, si j'ose dire, que Donald Trump leur a fait pour leur faire croire qu'ils pourraient vivre en sécurité, c'est de créer un phénomène de normalisation avec un certain nombre de pays arabes, et notamment les pays du Golfe, qui étaient en situation de normalisation, que ce soit avec la Jordanie, le Maroc, le Sultanat d'Oman, et puis on a mis en avant le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et bientôt ça va être l'Arabie Saoudite. Cette normalisation-là ne pourra pas avoir d'impact sur une solution dans la région, et en tout cas une solution à l'impasse dans laquelle se trouve l'antisioniste. Pourquoi? Parce que le danger ne vient pas de là-bas. Le danger vient directement de la frontière avec l'axe de la résistance, c'est-à-dire avec les Palestiniens eux-mêmes, avec les Syriens, avec les Libanais. Or, à ces endroits-là, aucune solution n'a été trouvée. Bien au contraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à travers les provocations qui ont été commises, à travers les guerres qui ont été menées dans ces pays-là et dans ces territoires-là, c'est-à-dire la guerre qui a été menée contre la Syrie pour la déstabiliser et détruire ce pays. La guerre qui a été, ou les guerres qui ont été menées contre le Liban et les guerres qui ont été menées contre le peuple palestinien et plus particulièrement contre la bande de Gaza se sont retournées contre l'antisioniste parce qu'aujourd'hui, ces territoires se trouvent totalement renforcés et sont capables maintenant de mener des attaques. Et c'est la raison pour laquelle les menaces de Saïd Hassan Nasrallah sont à peine voilées pour dire que nous nous rencontrerons non plus à la frontière, nous nous rencontrerons à l'intérieur des territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire à Jérusalem, pour aller y prier. C'est un symbole, mais ce n'est pas un symbole qui est une image. Non, c'est une réalité qui est en train de se réaliser et qui va être concrétisée. Et ça, je dirais, ça met la peur dans le ventre de l'ensemble de la population israélienne. Et c'est ce qui, aujourd'hui, constitue le plus grand danger parce que leur premier échec est un échec politique et moral.
Absolument.
Mais également, c'est un échec militaire parce que tôt ou tard, cette confrontation est annoncée et aura lieu.
Absolument.
Et sera gagnée par l'axe de la résistance.
Absolument. Maître André Chamy, juriste international depuis Alsace, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Ahmad Rami, qui est directeur de Radio Islam depuis Suède. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 14e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Dans la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il dit « Les événements et les affaires sont soumis au destin, dans la mesure où il y a parfois destruction dans la planification et la prévoyance. » La croyance au destin est l'un des piliers de la foi et des croyances musulmanes. Tout d'abord, il faut souligner que le destin ne s'oppose pas au libre arbitre. Car le destin concerne l'avenir de l'homme et le libre arbitre son présent. Ce destin est le fruit des choix faits dans le présent. Chaque homme a toujours la possibilité de modifier son destin grâce au libre arbitre. La croyance au destin signifie que tout vient de Dieu, que ce soit le bon ou le mauvais, les moments de joie ou de tristesse, le plaisir ou la douleur. Dieu n'est pas indifférent à ce monde ou à ses habitants. Cependant, nous ne devons pas être fatalistes, levant nos mains vers le ciel en disant « À quoi bon faire quelques efforts ?» Que ce soit. La préscience de Dieu ne remet pas en question la responsabilité humaine. Dieu nous tient responsables de ce que nous sommes capables de faire et ce que nous faisons. Mais il ne tient pas responsable
de ce dont nous sommes incapables. Dieu ne nous a donné qu'une responsabilité limitée, et c'est sur cela qu'il nous jugera. Nous devons penser, planifier et faire des bons choix, mais si parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait, nous ne devons pas perdre espoir ni sombrer dans la déprime. Ce que nous devons faire, c'est prier Dieu et essayer de nouveau. Mais si nous n'arrivons pas à réaliser ce que nous avons planifié à faire, nous devons nous dire que nous avons fait de notre mieux et qu'en fin de compte, nous ne sommes pas responsables des résultats. Dieu le Très-Haut a inscrit tout ce qui allait se produire dans l'univers jusqu'au jour du jugement. La durée de vie de chaque individu y est inscrite, de même que la quantité de ses provisions. Tout ce qui est créé et tout ce qui produit au sein de l'univers ont déjà été inscrits. Le verset 70 de la sourate 22 du Noble Coran dit « Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Tout est inscrit dans un registre, et cela est bien facile pour ton Seigneur. » En réalité, rien ne se produit dans les cieux et sur la terre, si ce n'est par la volonté du Seigneur. Dieu est le créateur de toutes choses. Selon la doctrine musulmane, chaque action faite par l'être humain, qu'elle soit physique ou spirituelle, est déjà prédestinée. Mais il est faux de croire que si une action est prédestinée, elle est alors faite de façon arbitraire et inéluctable. Le fait que Dieu intervienne dans les affaires des hommes ne signifie nullement que ces derniers n'ont aucune liberté. Au contraire, l'homme est libre de ses choix. L'intervention divine n'est pas incompatible avec la liberté morale et la responsabilité de l'homme. L'homme est libre et Dieu connaît d'avance les choix qu'il fera. L'homme n'est pas une pauvre créature impuissante qui se laisse porter par son destin. Chaque personne est responsable de ses actes. L'homme est obligé d'obéir à la loi morale et il recevra soit un châtiment, soit une récompense selon qu'il aura violé cette loi ou l'aura observée. Dieu le Très-Haut ne nous tiendra jamais responsables d'une chose, à moins que nous ayons eu la possibilité de le faire ou pas. Le verset 285 de la sourate 2 du Noble Coran dit « Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » La croyance au destin renforce la croyance en Dieu. Car celui qui croit au destin réalise que Dieu seul contrôle toute chose. Il lui fait donc confiance et se fie à lui. L'homme fournit les efforts qu'il doit fournir, tout en se remettant à Dieu pour le résultat final. Son travail acharné et son intelligence ne doivent pas être perçus comme de l'arrogance, car Dieu est la source de tout ce qui croise son chemin. En comprenant et en reconnaissant que Dieu est sage et que ses actions sont dictées par sa sagesse, l'homme atteint la tranquillité d'esprit. Rien ne se produit sans but de façon aléatoire. Si une chose atteint l'homme, il doit comprendre que jamais il n'aurait pu échapper à cette chose. Et si une chose ne vient pas à lui, il doit comprendre qu'elle ne lui était pas destinée. Une fois qu'il a compris cela et qu'il l'a accepté, l'homme peut enfin atteindre la paix intérieure.
Thank you.